Le 6-9 de l'été sur France Inter.
Il est 7h46, bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
Député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, invité du 6-9 de France Inter. François de Rugy a démissionné hier, est-ce qu'il a eu raison?
Il arrive un moment où le scandale gêne l'action d'un ministre, donc on est dans un système où malheureusement, quand vous êtes pointé du doigt, quand vous êtes poursuivi par la meute, entre guillemets, eh bien vous n'avez pas d'autre solution que de démissionner.
Ça veut dire que sur le fond, il aurait dû rester ministre?
C'est-à-dire que si on va rechercher dans les assiettes de l'ensemble des gens qui ont des responsabilités en France, et je ne parle pas que des politiques, les chefs d'administration, etc., je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de démissions dans le pays.
Il n'y a pas qu'une question d'assiette, il y avait éventuellement une indemnité de frais de mandat qui a été utilisée pour payer ses cotisations au parti Europe Écologie Les Verts.
Ça c'est arrivé tardivement dans le scandale. Et personne ne s'interroge sur l'enveloppe qui était dédiée au ministre de l'économie sous François Hollande et qui a été dépensée dans des repas privés par Emmanuel Macron.
Vous parlez d'Emmanuel Macron, ça a été révélé par un livre de consoeurs et confrères de Radio France d'ailleurs.
Et par le ministre monsieur Eckert, tu crois, qui a fait un livre.
Qui disait un ministre, dénoncé les gens.
Plus personne n'en parle, mais ce sont des centaines de milliers d'euros utilisés par le couple Macron pour inviter des amis ou des prescripteurs d'opinion. Voilà, monsieur de Rugy, en fait, il paye l'addition pour tout le monde, mais je pense que c'est assez courant dans le milieu.
Hier, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, a refusé de se rendre chez un juge d'instruction à Versailles. C'était un rendez-vous en vue d'une mise en examen puisqu'elle avait diffusé un document judiciaire sur Twitter. C'est un bon exemple qu'une élue de la République ne se rende pas chez le juge quand elle est invitée ou convoquée. Je ne sais pas quel est le terme exact.
Écoutez, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a la résistance à l'oppression. Là, clairement, les juges usent de leur faculté pour, persécuter l'opposition politique. Car dans cette affaire-là, elle n'a fait que mettre sur Twitter une convocation qui lui était destinée. Je veux dire, c'est quelque chose d'absolument d'une banalité affligeante. Et c'est pour cela qu'elle est convoquée et poursuivie. Voilà, on en est là. La justice perd du temps, utilise des moyens financiers de l'État pour ce genre de choses contre un député de la République.
Oppression politique.
Oui, oppression. Quand vous avez autant d'affaires et que systématiquement les juges vous poursuivent, y compris par exemple pour mettre sur Twitter des photos de Daesh, des atrocités de Daesh, et qu'on lève votre immunité parlementaire et qu'on vous poursuit devant les tribunaux, on peut se poser la question de l'utilisation des juges à des fins politiques contre l'opposition dans notre pays.
Le juge d'instruction, en l'occurrence, il est indépendant.
Oui, il est indépendant, ça c'est ce qu'on dit. Mais je n'y crois beaucoup, moi, à l'indépendance des juges, pour tout vous dire. Et d'ailleurs, on le voit dans d'autres affaires. Et c'est bien une question qu'un jour ou l'autre, la République devra trancher pour l'indépendance du parquet, notamment. Vous savez que les tribunaux de l'Union européenne condamnent la France systématiquement parce qu'ils considèrent précisément que les juges du parquet ne sont pas indépendants.
Ça a été évoqué plusieurs fois en révision constitutionnelle et ça n'a jamais été adopté. Louis Alliot, hier, Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne de très très peu, hein, seulement 9 voix. Votre groupe a voté contre elle, mais certains eurosceptiques polonais ou hongrois qui ne sont pas dans votre groupe ont sans aucun doute voté pour elle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une fissure dans le camp des souverainistes?
Je pense que ça veut dire que certains sont sensibles à une certaine musique qui les avantage. Je pense aux Polonais, notamment aux conservateurs polonais, ou à certains Hongrois, qui assez facilement se rangent du côté du plus fort, très certainement pour obtenir un certain nombre de décisions favorables en ce qui concerne leur pays. Mais c'est dommage, parce que 9 voix, c'est pas grand-chose, mais ça montre, en tout cas, une certitude, c'est que ce Parlement européen aujourd'hui, il est très équilibré, il est divisé, et que les décisions se prendront à l'avenir en tenant compte de cette opposition, car une présidente de commission qui passe à aussi peu de voix, je pense que c'est pour l'avenir quelque chose qu'il faut analyser de très près, et c'est très positif, je pense.
Vous parlez, Louis Alliot, d'une petite musique à laquelle ont été sensibles certains députés. Le journal L'Opinion nous révélait hier que la Ligue italienne, qui pour le coup siège avec vos collègues du Rassemblement National, la Ligue a essayé de négocier en secret avec le PPE en échange d'un poste de commissaire européen pour un Italien proche de Matteo Salvini.
Ben, écoutez, que l'Italie, qui fait partie des pays fondateurs de l'Europe, en arrive à négocier un commissaire qui lui est dû, en quelque sorte, ça c'est un problème démocratique. Je ne suis pas italien et je pense qu'il défend les intérêts de l'Italie, Monsieur Salvini. Mais ça c'est encore notre problème. Il y a une règle à l'Union européenne, on représente le poids électoral de chaque pays. Et à l'Union européenne aujourd'hui, notre groupe, qui est le quatrième groupe de l'Assemblée, n'a aucune présidence, aucune vice-présidence, parce que la droite et la gauche européenne se sont alliées pour nous exclure. Ça, c'est le modèle aujourd'hui de l'Union européenne. On le déplore, mais je pense que c'est significatif et emblématique, et les citoyens le voient. C'est ça qui est important.
Est-ce que c'est logique de se référer à ce que vous appelez le modèle ou la règle non écrite européenne qui vise à donner une représentation équilibrée, et en même temps, par exemple, ne pas se lever pour l'hymne européen? Vous jouez pas un peu sur les deux tableaux, là, le beurre et l'argent du beurre?
Je vais vous dire quelque chose. L'hymne européen a été rejeté par le peuple français, par le référendum sur la Constitution. L'hymne européen faisait partie du traité constitutionnel. Il a été rejeté par référendum par les Français. Voilà. L'Europe n'a pas d'hymne, elle n'a pas de devise, elle n'a pas normalement de drapeau. Ce n'est pas une nation.
Mais à ce compte-là, la règle que vous évoquez, elle n'existe pas non plus. C'est une pratique.
C'est
pas une règle.
Très bien, c'est une pratique. On voit très bien qu'elle est démocratique quand vous êtes d'accord avec l'élite en place, et elle ne l'est moins quand vous êtes contre. Mais encore une fois, hein, vous savez, même le mur de Berlin est tombé. Et ce mur de l'Europe finira par tomber parce qu'il n'est pas démocratique et il n'est pas respectueux du suffrage universel.
Dans une demi-heure, sur France Inter, on reçoit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il défend une taxe sur les GAFA, les géants du numérique. Pour l'instant, cette taxe, elle est uniquement française. C'est une bonne démarche, selon vous ?
Oui, c'est une bonne démarche qui est assez timide, hein, mais c'est déjà significatif. On verra si elle est autorisée précisément par les règles de l'Union européenne, sachant que, vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus décider seul.
Il faut l'unanimité.
Regardez le traité du CETA. On nous demande aujourd'hui de voter, en tant que député, la ratification de ce fameux traité, qui est déjà en application depuis septembre 2017. C'est quand même assez curieux qu'on demande aux députés aujourd'hui de voter pour un texte qui est appliqué depuis déjà 2 ans. Mais on n'aura plus l'occasion de le faire, puisque la Commission européenne s'est arrangée pour que dans les futurs traités, je pense avec le Mercosur, etc., les députés français n'auront pas à se prononcer puisque c'est de compétence du Parlement européen. Encore là, la souveraineté de la France s'évapore à un niveau supranational.
Autre projet du gouvernement, la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye va révéler ses préconisations demain, on les connaît. Hein. Maintien de 62 ans pour partir à la retraite, mais taux plein à 64 ans. Et une retraite calculée sur toute la carrière par points. Qu'est-ce que vous pensez de ces pistes?
Écoutez,
au Rassemblement national,
on en discutera lors du projet de loi et de la discussion. Je pense que c'est un sujet très sensible en France, la retraite. Je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire avant de ponctionner un peu plus les retraités.
Lesquels ?
Et encore une fois, oh, vous savez, sur beaucoup de choses, il y aurait beaucoup d'économies sur le train de l'État, sur la décentralisation, sur l'immigration, sur la manière dont on ponctionne l'impôt. Il y a beaucoup d'économies à faire.
Donc il n'y a pas forcément besoin de réformer le système des retraites, selon
vous ? Si, je pense qu'on peut le réformer, notamment en matière d'égalité, mais il y a une chose, on n'est pas obligé de ponctionner systématiquement les mêmes. On peut aussi regarder les économies qu'il y a à faire ailleurs, avant de systématiquement aller chercher l'argent toujours dans les mêmes poches.
Louis Alliot, député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, invité de France Inter ce matin. Bonne journée.